RTL Info.
Sarah Massy.
Bonsoir, victoire à Belge sur le Tour de Romandie cycliste. Thomas Degen a enlevé la deuxième étape disputée entre Delémont et Yverdon-les-Bains en solitaire. Le public neuchâtelois a aussi vibré aux abords du tracé qui passait dans la région. Le PLRN met la pression sur le Conseil d'État en matière fiscale. Il veut introduire un système rigoureux à la vaudoise pour mettre des priorités dans les dépenses publiques. Le parti neuchâtelois va aussi proposer un changement dans la Constitution pour clarifier la situation lors du vote du budget. Zénith ouvre les portes de ses ateliers au public. La manufacture locloise collabore avec Tourisme Neuchâtelois pour valoriser le patrimoine horloger. Christian Constantin, Bernard Nicot et d'autres manias de l'immobilier se font un monopoly. Les pontes du logement ont profité de leur invitation au salon de l'immobilier neuchâtelois pour distiller des conseils. C'est un ciel voilé et frais qui nous attend ce soir et cette nuit. La journée de demain s'annonce ensoleillée et assez chaude au fil des heures. Une nouvelle étape animée sur les routes de la région pour le Tour de Romandie. Le peloton est parti de Delémont vers 13h. Il est arrivé à Yverdon vers 17h15. Après plus de 173 km de course dans cette deuxième étape qui a vu la victoire du Belge Thomas de Gent, le résumé de Marcel Neuenschwander.
Les sprinters sont recalés et les échappés récompensés, ou plutôt l'un d'entre eux, et tout particulièrement Thomas De Gendt, qui a signé une sacrée performance entre Delémont et Yverdon. Troisième du Tour d'Italie 2012, le Belge de 31 ans a bouclé avec panache son numéro au terme d'une échappée de plus de 170 km. Thomas De Gendt faisait partie d'un groupe de 5 coureurs qui a pris la poudre d'escampette dès les premiers kilomètres de course dans l'ascension du col des Rangiers. C'était le scénario attendu dans un premier temps lors d'une étape réservée a priori pour les sprinters. Leurs coéquipiers devront, comme souvent dans le cyclisme moderne, contrôler les opérations et rattraper les fuyards sur la fin. Mais voilà, c'était sans compter sur De Gendt, un coureur complet qui roule, qui grimpe, un baroudeur des temps modernes, selon la formule même de l'ancien champion Christophe Moreau. Thomas De Gendt a bouclé les 25 derniers kilomètres en solitaire après avoir lâché son dernier compagnon d'échappée, l'Américain Nathan Brown, et avoir aussi bénéficié presque jusque-là du travail de son coéquipier Victor Kampenaerts, présent lui aussi dans l'échappée. Bref, un bel ouvrage, individuel, collectif et stratégique aussi de l'équipe Lotto Soudal, au demeurant Thomas Gaudens, rate même le jaune de peu.
Lors de cette étape, le public s'est pressé aux abords des routes de la région. À La Chaux-de-Fonds, la foule s'est déplacée en masse pour applaudir les coureurs. Léonard Reichen.
Les Chaux-de-Fonniers aiment le Tour de Romandie et il leur rend bien. Pas d'arrivée cette année dans la ville du Corbusier, mais un public toutefois venu en nombre sous le soleil pour ce jeudi après-midi. Les trottoirs des rues du Collège, de la Balance et de l'Hôtel de Ville se sont bien remplis. Grands-parents et enfants, amateurs avertis ou simples curieux, à l'exemple de cette dame qui attendait le passage des coureurs à proximité de la place du marché.
Oui, je suis très motivée à venir et j'aime bien voir ces coureurs. S'ils ne sont pas ici, ils sont à la télévision. Tous ces cyclistes, ils ont du mérite. Hein. Et puis surtout quand il fait vilain, aujourd'hui on a de la chance parce qu'il fait beau.
Et quelques représentants du monde du sport chaux-de-fonnier avaient également répondu présent. C'était le cas de Patrick Barberon, le président du mouvement junior du HC La Chaux-de-Fonds.
Moi qui suis un cycliste averti qui fait quand même pas mal de kills par année, c'est vrai que de voir une étape du Tour de Romandie passer au travers de la ville de Chaux-de-Fonds, c'est juste assez génial pour promouvoir le cyclisme.
Pas d'arrivée d'étape cette année, mais un passage éclair de 4 coureurs échappés, suivi de quelques 6 minutes plus tard par un peloton plutôt allongé qui est parti aussi vite qu'il était venu en direction de la vallée de la Sagne et du Val de Travers.
Prochaine étape demain en contre-la-montre disputée entre Ollon et Villars. Il l'avait promis, il le fait. Le Parti libéral radical neuchâtelois présente plusieurs mesures pour assainir les finances cantonales. Il propose également un changement de la Constitution pour clarifier les choses en matière d'adoption du budget. Le PLRN souhaite préciser que le Grand Conseil doit voter un budget. Si ce budget ne respecte pas le frein à l'endettement pour la troisième année d'affilée, une hausse simultanée des impôts sur les personnes physiques entre en vigueur. Hausse soumise au référendum et qui peut être refusée par le peuple en votation populaire. Marc-André Nardin, député PLR.
S'il y a refus de l'augmentation d'impôts, à ce moment-là, on arrive effectivement à un budget déficitaire. Et à ce moment-là, on peut envisager, par exemple, le système des 12e provisionnels, tel que l'État de Genève l'a fait. À savoir, on ne va pas au-delà des dépenses de l'exercice précédent.
Donc, pas forcément des coupes.
La situation que je propose de ces 12e provisionnels, c'est pour l'exercice concerné, bien évidemment. Mais comme le peuple a refusé l'augmentation d'impôts, en bonne logique, le législatif et l'exécutif, à ce moment-là, doivent s'attaquer aux dépenses. Mais il n'y a pas un automatisme en cas de refus de l'augmentation d'impôts de s'attaquer aux dépenses. C'est un signal politique qui est donné. Cet automatisme, c'est les modifications ultérieures de la LFINEC que l'on propose par l'intermédiaire de l'autre intervenant d'aujourd'hui, M. Aubert.
Ces modifications de la loi sur les finances se basent sur le système vaudois. Il s'agit de résorber le déficit structurel en priorisant les dépenses publiques et en liant toute nouvelle dépense à un financement. En résumé, le budget de fonctionnement doit être équilibré, les recettes doivent couvrir les charges et le financement de toute nouvelle charge doit être assuré. Il donne aussi plus de responsabilité au peuple qui décide s'il veut une hausse d'impôts ou une baisse des prestations. Ce modèle a permis au canton de Vaud de revenir rapidement dans les chiffres noirs. De quoi mettre la pression sur le Conseil d'État neuchâtelois, Mathieu Aubert, député PLR.
Oui, une pression, mais une saine pression pour le Conseil d'État. Le fait d'aller devant le peuple, c'est un peu l'instrument de dernier recours lorsque tout le reste n'a pas fonctionné. Mais avant, c'est déjà de s'assurer du financement de tout nouveau projet. C'est aussi de s'assurer au maximum que des budgets et des comptes sont équilibrés et d'avoir une résorption du déficit structurel. Après, c'est vrai que le fait d'arriver devant le peuple, c'est aussi une solution qui doit être explorée, puisqu'on a eu des exemples récents où finalement, le peuple ne veut pas forcément d'augmentation d'impôts, mais il ne veut pas non plus de diminution de prestations. On a eu des votations sur le bibliobus, sur les hôpitaux, sur la CCT Santé 21. Et finalement, c'est aussi la possibilité de rapprocher l'État du citoyen, de dire les choix politiques sont assumés. Maintenant, vous, citoyens, vous, contribuables, vous pouvez choisir. Est-ce que vous préférez la baisse de prestations ou l'augmentation d'impôts ?
Le PLR espère que la première mesure puisse entrer en vigueur pour le budget 2019. Appel à la prudence dans les tunnels sous Neuchâtel. L'Office fédéral des routes constate que la signalisation dans la zone de travaux perturbe les automobilistes. L'Ofro a mis en place une alerte qui s'enclenche sur les autoradios quand les voitures arrivent à proximité. Elle vise à rendre les conducteurs encore plus attentifs et à éviter à tout prix les accidents. Le trafic se fait sur une seule voie, direction Bienne. Toute panne ou accrochage signifie une fermeture totale de l'autoroute dans ce sens et une déviation du trafic. Olivier Floic, responsable de la communication à l'Ofro, donne ses conseils aux automobilistes.
Très clairement, de respecter la signalisation et la vitesse qui est en vigueur. La police va mettre en place également un certain nombre de radars pour s'assurer qu'on respecte les limitations de vitesse. Notamment, un radar a été posé ce matin. C'est très important de dire que limiter la vitesse, ça n'est pas pour faire de la répression, mais c'est davantage pour faire de la prévention. On constate effectivement que, en règle générale, lorsqu'il y a soit la présence de la police, soit la présence de radars, eh bien, effectivement, les gens ont l'habitude de lever le pied. Le seul conseil que je pourrais dire, c'est même si vous ne voyez pas la police et même si vous ne voyez pas de radar, de grâce, respectez la limitation de vitesse, c'est très très important. Et ça permet justement de circuler dans les meilleures conditions possibles sans avoir, en cas d'accident ou d'accrochage, d'autre choix finalement que de faire passer le trafic dans la ville.
Les travaux vont durer encore 2 ans dans les tunnels sous Neuchâtel entre Serrières et Marins. Nouvelle attraction touristique au Locle, la manufacture Zenith ouvre ses portes au public. Les visiteurs peuvent parcourir l'usine durant plus de 2 heures en compagnie d'un guide. Exposition, film et animation retracent l'histoire de la marque et de ses particularités. Les curieux peuvent aussi entrer dans les ateliers et rencontrer des horlogers. Ce projet a été mis en place avec Tourisme Neuchâtelois. Il a reçu le soutien financier du canton, de la Confédération et de la Loterie Romande. Le directeur de Zenith dévoile ce qui l'a convaincu d'ouvrir les portes de l'usine. Julien Tornard.
La motivation, personnellement, je l'ai depuis très longtemps parce que j'ai toujours eu le sentiment que l'horlogerie suisse, qui est appréciée dans le monde entier, n'ouvrait pas assez ses portes. On fait beaucoup d'événements, on va voir les gens, on organise des choses sur les marchés, mais les entreprises d'horlogerie ont une tendance à être un petit peu fermées, à protéger leurs secrets, etc. Et aujourd'hui, on est dans une phase où nos clients dans le monde entier veulent de plus en plus apprendre et surtout comprendre ce qu'ils achètent. Qu'est-ce qu'il y a derrière la marque, qu'est-ce qu'il y a derrière un produit, qu'est-ce qu'il y a derrière le prix du produit. Il n'y a pas de meilleure manière que d'inviter les clients chez nous. Mais vous ne pouvez pas les inviter et les laisser derrière des vitres et qu'ils voient une présentation PowerPoint. Vous devez leur donner une vraie expérience avec de l'émotion, leur expliquer qui on est. Et c'est vraiment par souci pour nous d'authenticité, de remettre le client au centre du débat et de lui apporter quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est vraiment un outil qui va plaire à tout le monde, mais qui va être extrêmement stratégique pour les nouvelles générations, ceux qu'on appelle les millennials, et qui, eux, veulent de l'expérience. Ils veulent comprendre ce qu'il y a derrière une marque de luxe. Ils veulent pas juste qu'on leur raconte que, voilà, parce que telle célébrité porte telle montre, c'est une super montre. Non. Nous, on veut les inviter, on veut leur montrer, et on veut leur faire partager notre passion.
Les propos recueillis par Marie Viomier, ces visites guidées de Zénith sont prévues tous les vendredis matins. Elles sont ouvertes à tous. Le Rock Altitude veut surfer sur la vague de son succès pour sa 13e édition qui se tient du 15 au 18 août à la patinoire du Communal. Le festival Le Cloix présente The Black Angels, Cannibal Corpse ou encore Hyphen. Comme tête d'affiche, la scène suisse aura également sa place. Duck Duck Grey Duck, Darius Oregon Trail ou encore Alice Roosevelt montreront notamment sur les scènes du festival Le Cloix. 15 jours après le prix suisse de la scène remis au petit chanteur à la gueule de bois, une autre figure de la culture neuchâteloise reçoit une distinction nationale. Anne Bizan, l'actuelle directrice artistique du théâtre populaire roman de la Chaux-de-Fonds, a reçu l'un des 5 prix suisses du théâtre. Les médias de l'immobilier se sont affrontés cet après-midi au SINE. Un monopoly était organisé lors du salon de l'immobilier neuchâtelois avec 6 pontes du logement, dont Christian Constantin, Pierre Collère ou encore Raphaël Oradiki. C'était l'occasion aussi d'échanger sur la situation immobilière du canton de Neuchâtel avec des acteurs importants du marché roman. Invité, le vaudois Bernard Nico n'est pas venu pour faire de la représentation, en tout cas selon lui.
Je ne suis pas venu pour faire de la promotion, je suis venu pour dire aux Neuchâtelois ce que je pense de leurs avantages et de leurs inconvénients et de ce qu'ils méritent. Et comme j'ai été invité et que je suis poli, j'ai répondu oui.
Ces Neuchâtelois, qu'est-ce qu'ils ont dans leur canton qui est bien ou qui n'est pas bien ?
Dans leur canton, il y a un pays magnifique, que l'on vienne, que l'on passe par le centre-ville avec ses magnifiques immeubles dans pierre jaune d'Autrive, que l'on suive le long le littoral et particulièrement ici, que l'on monte au sommet du Chasseral, et le pays est magnifique, le canton est magnifique. Par contre, alors ils ont des gros problèmes fiscaux, parce que leurs autorités ont oublié de savoir compter, ils ne savent pas compter.
Si on vous donnait par exemple les clés du canton, qu'est-ce que vous feriez ?
Alors d'abord, je réunis le Grand Conseil pour lui expliquer que la situation fiscale est grave et qu'il faut prendre des mesures urgentes et qu'il ne faut pas que les enfants qui ont 4 milliards de dettes, enfin les Neuchâtelois ou les enfants des Neuchâtelois, continuent comme ça. Donc il faut se réveiller et vous n'avez peut-être pas encore touché le fond, mais il faut remonter la pente sérieusement et non seulement avec une crémaillère, mais avec une vitesse du biturbo.
Des propos recueillis par Yann Esler. Et vous retrouverez les manias de l'immobilier demain dans la matinale. Drame à Payerne, les corps sans vie d'une jeune femme et d'un jeune homme ont été découverts hier soir dans la cité Broyarde. La police cantonale vaudoise est intervenue dans un immeuble près de la gare après plusieurs appels de témoins signalant des coups de feu. Les premiers éléments de l'enquête indiquent qu'il s'agit d'un drame familial. Le suspect s'est rendu à la police. Washington prend au sérieux l'offre suisse d'accueillir le sommet avec la Corée du Nord. L'annonce a été faite aujourd'hui par l'ambassadeur américain à Berne.
Ayrton, il est 18h et bientôt 14 minutes.
Sport. En judo, Evelyn Chop a remporté le bronze européen pour la seconde fois d'affilée. La sociétaire du JC Courtaillot a pris la troisième place à Tel Aviv, en Israël. Un iPhone après 22 secondes a suffi à la judokate pour battre la hongroise Reka Pup. Le footballeur Zlatan Ibrahimovic ne participera pas à la Coupe du Monde 2018 en Russie. L'attaquant qui évolue désormais avec le Los Angeles Galaxy avait déjà dit qu'il ne jouerait plus pour son équipe nationale. Il n'a pas changé d'avis. Toujours en football, les demi-finales allées de l'Europa League se jouent ce soir. Arsenal accueille Atlético Madrid et Marseille reçoit Salzbourg. Coup d'envoi de ces deux duels à 21h05. Dernière ligne droite avant les mondiaux pour l'équipe de Suisse de hockey sur glace. Les Helvètes affrontent la Lettonie en match amical ce soir à 19h à Riga, un adversaire qu'ils rejoueront demain. Il s'agira de l'ultime test avant le début des championnats du monde au Danemark le mois prochain.
Merci Sarah Massy pour toutes vos précisions. On rappelle évidemment que toute l'actualité, vous la retrouvez sur rtn.ch. Allez, on monte au ciel. Pour en prendre quelques nouvelles, alors la nuit prochaine sera calme, elle sera légèrement voilée, il fera frais. Pour vendredi, le temps sera bien ensoleillé, assez chaud pour la journée, avec des maximales qui vont dépasser les 21-23 degrés en pleine. Mais quelques cumulus ne sont pas exclus sur les crêtes, évidemment. Les températures prévues pour vendredi sur le littoral, on atteindra des 4 à 7 degrés, avec des maximales jusqu'à 22 degrés l'après-midi. Vers les crêtes du Jura, il fera moins 1 le matin, relativement frais, moins 1 à 3 degrés sur la région et le thermomètre grimpera demain entre 17 et 18 degrés. La suite pour le week-end, on ne vous cache pas que les spécialistes de la météo ne sont pas certains du temps, mais en tout cas samedi ça devrait se dégrader avec l'arrivée d'une perturbation qui va nous lâcher quelques gouttes de pluie, surtout l'après-midi, mais les températures elles vont rester douces puisqu'on atteindra les 16 degrés vers 1000 mètres d'altitude. Un poil mieux pour la journée de dimanche.